vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 158, Roland Westreich, Chaptaï Tsoï, guerre prosaïque. Chers amis, bonjour. Dieu existe. Il habite Bruxelles. Bon, c'est une blague hein, du cinéma avec Benoît Poelvoorde. Non. Dieu est silencieux. Et moi, je suis tout seul dans mon studio, en face de mon micro, dans mon studio radio. Alors, le silence de Dieu, c'est aussi une histoire belge. C'est de la littérature, c'est un roman qui s'intitule « Chaptaï Tsvi et le silence de Dieu » et son auteur est lui aussi belge, Roland Westreich. Et son histoire de 494 pages raconte une apostasie. Vous savez, c'est quand vous abandonnez votre foi. Apostasie, l'amour t'anesthésie. Alors ça, c'est une autre blague. C'est la chanson de François Béranger, le tango de l'ennui, Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Donc, au XVIIe siècle, le rabbin de Smyrne, Chabaï Tsvi, qui planait dans les hauteurs et s'était proclamé Messie d'Israël, s'est retrouvé devant le sultan Mehmet IV, qui lui a demandé de choisir entre la mort ou la conversion à l'islam. Donc, pour sauver sa peau, Chaptaï Tsvi s'est converti. Et bien sûr, dans l'histoire juive, il est devenu un personnage honni, qui mal y pense, honni, et qui raconte cette saga charnelle et mystique du Messie juif, c'est Roland Westreich. Bonjour Roland Westreich.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors Roland Westreich, vous êtes belge, mais c'est comme Dieu, on ne sait pas trop parce que vous êtes né à Genève. Alors là, on est en terrain neutre, hein. Si Dieu était comme un petit Suisse, ce serait délicieux et cela arrangerait tout le monde, fini les guerres. Mais votre mère est une juive polonaise francophile et votre père est un juif allemand communiste. Ce qui, avant-guerre, était compliqué à gérer si on avait le bon Dieu sur le dos et les nazis qui vous poursuivaient. Et vous, Roland, vous atterrissez à Anvers avec un papa juif diamantaire, puis un petit peu en Israël, puis 2 ans là-bas, puis Bruxelles. Et l'on se dit que votre origine est douteuse. Et ce sera d'ailleurs le titre d'un de vos livres, d'un de vos bouquins. Et vous devenez effectivement un autre. Alors, entre autres, écrivain, des romans, des scénarios de films et de théâtre, et des romans. Et vous écrivez sur quoi ? Vous écrivez sur le silence. Bon, à la radio, le silence... Bon, si vous étiez John Cage, on s'en tirerait. Je vous sens en train de rigoler. Mais comme vous êtes là, Roland Westreich, au téléphone depuis Bruxelles, je vais quand même vous demander de parler. Le silence des mots, c'est quoi ?
Ouh là 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 là. Comment répondre sans rester dans le silence ? Le silence n'est pas dans les mots, Ambroise. Le silence est entre les mots. C'est ce que les mots peuvent essayer de représenter. C'est ce que mes mots tentent de représenter ou de faire sentir. C'est ce qu'il y a entre eux, c'est les blancs, les silences.
C'est un peu l'espace off dans une peinture, par exemple, ou une photo. Donc ça veut dire qu'entre deux phrases, vous ne rajoutez pas une troisième au milieu, mais c'est au lecteur de l'inventer ou de la deviner.
Euh, entre deux phrases, j'avais l'habitude, et mon éditeur, ça l'a énervé prodigieusement, de mettre beaucoup de points de suspension, trois petits points. Et je me suis rendu compte, à la fin de l'écriture de Chaptaï, que ces trois petits points, c'était pour marquer une sorte d'indécision dans la désignation. J'aime... C'est les phrases incomplètes, voilà.
Voilà, ou alors des faux raccords. On passe de l'un à l'autre, mais sans essayer de dire qu'est-ce qu'il y a entre. Non ? Je ne sais pas.
Non. C'est pas ça que j'ai pratiqué, en tout cas.
Voilà. Bon, l'histoire de Chaptaï Tzvi, c'est une histoire vraie ?
Alors, Chaptaï Tzvi est un vrai personnage historique, il a bien existé. Mon roman n'est pas une histoire vraie, mais elle s'inspire de la biographie savante qu'a écrite de lui le savant juif israélien d'origine allemande, Gershom Scholem. Et donc je suis mon roman suit la vie de Chaptaï Tzvi comme elle est décrite par Scholem en faisant un roman.
Alors Chaptaï Tzvi, bon, c'était difficile de trouver une rime. Alors, j'ai trouvé prosaïque. Bon, elle est pas très riche, mais alors Chaptaï, il est né le jour du Shabbat. Et sur la couverture du livre, vous avez dessiné en surimpression blanche Dieu, hein, bon voilà, qui est donc silencieux. Donc c'est bien Dieu, hein, c'est pas Chaptaï sur la couverture.
Non, la figure qui est dessinée, c'est Chaptaï. Le nom qui est imprimé en lettres blanches,
c'est Dieu.
C'est le tétragramme. Les quatre lettres hébraïques Yud, He, Vav, He, donc Y, H, V, H, qui est le nom imprononçable de Dieu.
Ah d'accord, c'est imprononçable, donc c'est un peu du silence finalement.
C'est une façon de mettre en scène le silence, oui.
Voilà, alors bon, pour le lecteur, bon, franchement, la couverture, elle est assez rigolote, donc elle attire, donc elle est commerciale. Je ne sais pas si c'est vous ou votre éditeur qui a eu cette idée. C'est ça la définition de l'humour juif ?
Je ne pense pas.
Non ? Ben, ça vous fait rire, donc quand même. Oui. Non, mais est-ce qu'elle est sérieuse, cette couverture ? Alors, on ne peut pas la montrer aux auditeurs, hein, mais ils vont chercher... sur Google, mais est-ce qu'elle est sérieuse ou alors vous avez une sorte de dérision derrière ça ? Parce que de toute façon, déjà, le sous-titre, le silence de Dieu, on comprend que, bon, jusqu'à présent, on n'a aucun enregistrement de Dieu, donc...
Non seulement, on a juste une attestation par l'écriture avec un E majuscule que Dieu a parlé à Moïse et qu'il parle, il parle dans la Torah, dans la Bible. Mais le silence de Dieu, c'est pas du tout une blague juive. C'est disons le fond religieux ou de mon roman.
D'accord, mais moi je parlais de la couverture, je n'osais pas faire ce blasphème, enfin encore que on adore les blasphèmes dans notre émission, vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg, et je répète votre nom, Roland Westreich, mais donc la couverture, c'est vous qui l'avez conçue ou c'est votre éditeur ? Je repose la question.
C'est la personne qui conçoit mes couvertures.
D'accord.
L'interview. Qui a, sous mes indications, sous quelques indications du contenu du livre, qui a conçu cette couverture-là, qui représente un portrait, un des rares portraits qui existent de Chaptaï, et des lettres hébraïques.
D'accord. Alors, c'est un roman, mais c'est aussi une enquête, 500 pages. Et vous avez mis 10 ans, je crois, pour la faire, cette enquête.
J'ai mis 10 ans à... J'ai commencé par lire la biographie de Scholem, que j'ai refermée après 5 pages, parce que je ne comprenais rien.
D'accord.
Comme c'est un kabbaliste, Shabtai Tzvi, et que Gershom Scholem est un grand kabbaliste lui-même, il maniait un vocabulaire que je ne comprenais pas. Donc j'ai dû beaucoup étudier, lire, avant de me mettre à écrire. Mais ce n'est pas vraiment une enquête, c'est une recherche à l'intérieur, dans les motivations du personnage, et dans les motivations historiques, et dans ce que je faisais, dans la manière dont je commençais à caractériser le personnage, de ce qui allait me permettre de dénouer l'énigme de cette apostasie, parce que je ne croyais pas, enfin mon point de départ était, et si c'était pas la peur du martyr qui avait poussé Shabtai Tzvi à apostasier, mais autre chose.
Oui, alors vous dites que ce n'est pas une enquête, mais quand même, vous êtes le premier à raconter cette histoire de Shabtai Tzvi. Et il y a 4 pages de bibliographie que vous avez consultées. Donc c'est quand même... Il y a 200 bouquins que vous avez lus pour pouvoir faire cette non-enquête de 500 pages.
Si j'avais lu les 200 bouquins, je n'aurais pas fini d'avoir 10 ans.
D'accord. Oui, à un moment, il faut s'arrêter de chercher et il faut écrire.
Voilà.
Voilà.
Oui, je n'ai jamais arrêté de chercher, de lire, mais donc j'ai une petite connaissance juive de base, et j'ai dû approfondir beaucoup d'aspects de la culture juive et de la culture talmudique et de la culture kabbaliste.
Bon, alors, ce n'est pas une enquête, c'est un roman. Alors, quand on parle de Dieu, quelle est la part de fiction ?
Ma première réaction est de dire quand on parle de Dieu, c'est toujours une fiction.
Ah.
Mais justement, c'est toujours une fiction parce que Dieu existe dans le texte. Dieu n'existe nulle part ailleurs que dans des textes.
Et au cinéma, un petit peu.
Bon, c'est... Un petit peu, oui.
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 Mais donc Dieu existe, mais quand même, la part de fiction, les 500 pages, il fallait bien les remplir. Qu'est-ce que vous avez... Il fallait bien raconter cette histoire.
Hein, oui,
quand il se fait lapider et tout ça, enfin, je ne vais pas dévoiler tout le roman, mais... Alors, on va poser la question autrement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire? Et alors... Je vais tout de suite à la dernière question de l'émission, mais pourtant on n'a pas fini. Est-ce que c'est une sorte de testament mystique de votre part ?
Alors, testament mystique, non. C'est ma petite, toute petite pierre, mon caillou, contribution...
Votre scrupule.
Au vaste bâtiment de la culture juive. Qu'est-ce qui m'a donné envie, c'est d'écrire cette histoire, c'est parce que c'est un personnage qui est méconnu et je me suis un peu identifié à cet aspect de sa vie. J'ai vu il y a 20 ans un documentaire sur sa vie qui m'a titillé, où il y avait une image qui m'a frappé, c'est que comme c'est un kabbaliste, il entre régulièrement dans des méditations, des extases profondes, et à ce moment-là, il exhale une odeur de rose. Et donc, je trouvais ça assez extraordinaire, un personnage qui exhale. Et puis,
vous savez que Jean-Paul Kaufmann, quand il est allé, mais 250 ans ou 300 ans après, sur l'île Sainte-Hélène, il sentait aussi l'odeur. Hein, il parlait énormément des odeurs dans la chambre noire de Longwood. Ou alors, vous me faites penser à Sainte-Thérèse de Lisieux, quand on a ouvert ce cercueil. Pour prendre des bouts d'os pour faire des reliques, hein. Ça sentait la violette. Et vous, vous êtes allé dans des bibliothèques, vous avez ouvert des livres sur Chaptal, et ça sentait donc
la rose.
Voilà. L'important, c'est la rose, oui, ça on le sait. Mais, oui.
Mais oui, alors, je suis en bonne compagnie.
Oui, mais alors vous êtes, donc c'est bien, ça sentait la rose, mais ces livres, vous les avez trouvés dans une bibliothèque à Bruxelles, ou alors vous êtes allé en Israël, où il y a peut-être plus de livres sur le sujet ?
Non, j'ai fait une... comme on fait des recherches quand on n'est pas systématiquement dans un travail universitaire, c'est... Un ouvrage qui mène à un autre. C'est comme ça que j'ai constitué cette impressionnante bibliographie. Mais pour revenir à votre question sur le roman, je me suis inspiré, donc le fondement, ce sont des écrits universitaires que j'ai lus. Mais les universitaires, ils s'en tiennent aux faits. Un roman, c'est aller au-delà des faits. C'est entrer dans la tête, dans l'esprit, dans le corps, dans les émotions des personnages. Et ça, aucun des universitaires ne le fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi sur les 500 pages que ouais. fait le roman.
Voilà. Alors, le sujet, donc, c'est Chaptal, mais le sujet aussi, enfin, on le sent, parce que ça revient souvent, c'est l'apostasie. C'est quelque chose qui vous a un petit peu fasciné, cette histoire-là. Alors, votre famille a connu les camps. Et alors, je vais vous poser une question de goy. C'est une perche pour vous faire parler. Si tout le monde s'était converti, personne ne serait parti à Auschwitz.
Oui, c'est bien ce que... La conversion et l'apostasie, c'est une constante dans le monde juif. Chez les juifs allemands, avant la guerre, beaucoup se sont convertis, les juifs du monde autrichien, beaucoup se sont convertis exactement pour cette raison. En France aussi, beaucoup de juifs se sont convertis, ont changé leur nom pour échapper à l'antisémitisme. C'est une question fondamentale de l'existence des Juifs. Comment échapper à l'antisémitisme ?
Oui.
Mais l'apostasie, à l'époque de Chaptal, justement, c'est lui, il vit de 1626 à 1666. En 1648, il y a les grands pogroms en Ukraine où des Juifs refusent de se convertir au catholicisme, et donc c'est ce qu'on appelle la sanctification du nom. C'est pour les juifs ashkénazes, il y a trois ou quatre circonstances dans lesquelles il faut préférer la mort à la vie, et une de ces circonstances, c'est renoncer à Dieu. Pour les juifs séfarades, ce n'est pas aussi...
Oui, alors être un héros ou être une victime, bon, c'est vraiment un autre sujet, mais je reviens dans le livre, j'ai déjà cité ce mot, la lapidation, alors il y a un passage, oui. Donc on comprend d'abord que la lapidation, c'est pas réservé aux femmes, comme on y pense à cause de l'Iran. Mais le livre, quand même, vous l'avez fini en 2025, on est en 2026, il résonne quand même un petit peu avec l'actualité, par rapport à l'antisémitisme, oui ?
Oui, tout à fait, bien sûr. Sauf que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait que l'apostasie soit à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il y a d'autres... à ma connaissance, ça n'est plus dans le...
Oui, enfin, l'apostasie, alors, c'est pas... Mais on connaît aussi des gens qui ne portent pas la kippa, qui font attention à cause de l'antisémitisme qui nous entoure. Bon, il y a plein d'exemples. Bon, c'est un petit peu ça que je voulais relever dans votre livre. Bon, Roland Westreich, on va quand même parler encore... un petit peu de vous. Donc, votre livre, ça ressemble, C'est un peu le Canada Dry. Ça ressemble à une thèse universitaire, mais ce n'est pas une thèse universitaire. C'est un roman palpitant, mais vous faites aussi des ateliers d'écriture que vous animez. Racontez-moi ça un petit peu.
Je faisais des ateliers d'écriture. J'ai arrêté il y a une dizaine d'années pour me concentrer sur ma propre écriture. Mmh. J'ai appris à animer des ateliers d'écriture à Paris chez Elisabeth Bing de son vivant, qui était la fondatrice ou celle qui a fait le premier atelier d'écriture en France dans les années 1980. La conception d'Elisabeth Bing, c'était faire écrire comme des écrivains. Et donc, elle relevait dans des textes littéraires ce qui en faisait la particularité. Elle lisait des extraits et elle formulait une proposition qui avait pour vocation de lancer l'imaginaire écrivain des participants.
D'accord. Alors, ça veut dire que ces participants, pour eux, c'est un peu une thérapie, l'écriture. Est-ce que ce livre, ça a été une thérapie pour vous?
Alors là, ça va me donner des boutons. Ambroise Perron.
Ah bon? Très bien. Roland Westreich. Mais je ne suis pas docteur, donc allez-y.
Non. L'écriture n'est pas une thérapie. Il ne faut pas faire de l'écriture un instrument pour quelque chose. L'écriture est un...
Je suis entièrement d'accord.
Un but en soi. Et donc, le but de l'écriture, c'est d'écrire. Et c'est, mais la fausse idée de la thérapie vient du fait que le fait d'être dans l'écriture littéraire, ça vous place hors du temps et de l'espace.
Oui.
Et ça vous met dans un état de plaisir ou de jubilation intérieure. Il y a Dieu qui vient de de la création qu'on fait pendant qu'on écrit.
Bon, donc c'est du plaisir. Mais enfin, quand même, vous avez gardé les pieds sur terre parce que vous dédiez votre livre, donc Chabtaï Tzvi et le silence de Dieu, et je donne le nom de l'éditeur aux éditions Asmodée Ederne, vous le dédiez à vos deux filles, Hélène et Smadar. Bon, c'est pas la peine de me répondre, mais on peut comprendre. Et alors, autre chose aussi pour nos auditeurs, vous mettez deux L à Roland. C'est pour voler les deux L au-dessus des mots?
Elisabeth Bing disait, c'est nager. Je nageais jusqu'à la page pour décrire ce qu'elle faisait dans les ateliers d'écriture. Non, les deux L, c'est pas moi qui les ai mis, c'est ma mère. Je suis né en 1943, en pleine guerre. Ma mère avait émigré, enfin, d'abord de Belgique vers la France et de France vers Genève, où je suis né. Et comme elle était une grande admiratrice de Romain Roland, son nom de famille est devenu mon prénom.
Ah ben ça c'est formidable comme origine. Ben c'est une très bonne conclusion pour notre émission. Merci Roland Westreich. C'était l'épisode numéro 158 de « Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg ». Le titre de l'émission, de l'épisode, Roland Westreich, Subtai, Tzvi, guerre prosaïque. Et comme toujours, la dernière petite question, Roland Westreich, après le silence de Dieu, votre prochain roman, est-ce que ce seront les ricanements du diable?
Ça n'est pas loin de ça. Mon prochain roman parlera d'un assassinat qui a eu lieu en milieu juif dans les années 1960.
Eh bien, on attend avec impatience ce prochain livre. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, on reste dans la littérature pour conclure cette saison et préparer l'été avec le roman d'une Strasbourgeoise, Muriel Klein-Zolti, le goût de la salade sucrée. Alors Muriel Klein-Zolti est une sociologue et on la connaît parce que elle a travaillé avec Freddy Raphaël et elle a déjà écrit avec Simone Pollack. À la technique, Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them.